Go ahead, sir.
Yes. Good afternoon.
Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Bruxelles accueille l'un des plus grands corps de presse internationale au monde et je me réjouis de travailler avec vous. Tout d'abord, je voudrais à nouveau exprimer toute ma gratitude à Jens Stoltenberg pour l'immense travail qu'il a accompli ces 10 dernières années. Peu de dirigeants de cette alliance ont été confrontés à un environnement géopolitique présentant autant de défis. Mais Jens nous a guidés au travers de temps difficiles d'une main assurée. Et c'est en grande partie grâce à lui que l'OTAN est devenue aujourd'hui plus forte que jamais. Il laisse un héritage durable derrière lui. Je voudrais également remercier les 32 alliés de leur confiance en me choisissant pour lui succéder. C'est un grand honneur pour moi d'assumer les fonctions de secrétaire général de l'OTAN, l'alliance politico-militaire la plus réussie de l'histoire. Mais les alliés de l'OTAN sont face à de graves défis. Nous avons du travail à faire. Au sommet de Washington, les alliés ont fixé un cap clair pour avoir un monde plus sûr pour les 1 milliard de personnes au service duquel nous nous trouvons. Il me revient maintenant la tâche d'assurer la mise en œuvre de ces décisions et de continuer l'adaptation de cette alliance pour un monde plus complexe. Chacun des 32 alliés a son rôle à jouer et il n'y a rien que nous ne puissions réaliser ensemble. J'ai 3 priorités. Assurer que nous ayons les capacités pour nous protéger contre toute menace. Soutenir l'Ukraine qui lutte contre l'agression de la Russie et faire face aux défis mondiaux croissants pour la sécurité euro-atlantique. Tout d'abord, en ce qui concerne nos capacités militaires, la mission fondamentale de l'OTAN est d'assurer notre dissuasion et défense collective. Durant la décennie qui s'est écoulée, nous avons fait d'immenses progrès pour mettre en place les plans, forces et capacités afin d'assurer la dissuasion et la défense contre toute menace, d'où qu'elle provienne. Mais nous devons aller plus loin et plus vite face à cet immense défi. Nous devons avoir des forces mieux équipées, plus nombreuses, une industrie de défense transatlantique robuste, une capacité de production de défense accrue, plus d'investissements dans l'innovation, des chaînes d'approvisionnement sûres. Les alliés relèvent déjà ce défi avec des plans pour faire l'acquisition de milliers de systèmes d'artillerie et de défense aérienne, des appareils, 850 appareils modernes, essentiellement des F-35, des capacités haut de gamme. Mais il faut beaucoup plus de dépenses en matière de défense pour y arriver. Et je travaillerai avec les alliés afin de m'assurer que les investissements se fassent suffisamment et dans les bons domaines et qu'il y ait un partage du fardeau pour notre défense collective qui soit équitable. Ma priorité suivante est le soutien à l'Ukraine. Je me suis rendue en Ukraine à de nombreuses reprises, à Odessa, Kiev, Boutcha, Borodianka, Kharkiv, près de la frontière russe, où j'ai pu voir la brutalité de la guerre d'agression de la Russie et le courage du peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté. Le soutien à l'Ukraine représente la bonne décision. C'est un investissement pour notre propre sécurité. En effet, une Ukraine indépendante et démocratique est essentielle pour la paix et la stabilité en Europe. Le coût du soutien à l'Ukraine est beaucoup, beaucoup plus bas que le coût auquel nous ferions face si nous permettons à Poutine de l'emporter. J'ai mon expérience personnelle avec le MH17 qui a été abattu pour voir comment le conflit en Ukraine ne se limite pas aux lignes de front. C'est une tragédie qui a ébranlé mon pays il y a 10 ans et qui ne doit jamais être répétée. Lors du sommet de Washington, les alliés ont approuvé un paquet solide de soutien pour l'Ukraine, y compris un commandement, un engagement financier de long terme et le chemin irréversible vers l'adhésion. Je travaillerai avec les alliés pour m'assurer que ces décisions soient pleinement mises en œuvre et que l'Ukraine continue à se rapprocher de l'OTAN. L'OTAN doit continuer à centrer ses efforts sur la sécurité euro-atlantique, la sécurité de plus d'un milliard de personnes. Mais nous faisons face à des menaces de plus en plus planétaires. C'est pourquoi nous devons travailler avec nos partenaires. L'Union européenne est un partenaire unique en son genre et essentiel pour l'OTAN. Il y a un potentiel de renforcer notre coopération dans de nombreux domaines, du soutien à l'Ukraine à la lutte contre les menaces hybrides. Nous allons accroître nos interactions avec nos partenaires à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le Sahel, pour encourager la stabilité dans notre voisinage sud. Nous devons faire davantage d'efforts pour contrer la menace du terrorisme qui se pose à nos peuples, en renforçant notamment notre coopération avec nos partenaires d'Indo-Pacifique. La Chine est devenue un facilitateur de la guerre de la Russie en Ukraine avec son soutien pour l'industrie militaire russe. La Chine ne peut pas continuer à alimenter le plus grand conflit en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sans que cela ait un impact sur ses intérêts et sa réputation. La Russie reçoit également un soutien de la part de la Corée du Nord et de l'Iran qui lui permet d'assurer le soutien dans la durée de sa guerre illégale. Un petit peu plus tard ce mois-ci, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud participeront à une réunion ministérielle des ministres de la Défense de l'OTAN pour la première fois. Je me réjouis de les accueillir. Enfin, je voudrais remercier tous les hommes et les femmes en uniforme au service de notre alliance. Vous mettez en pratique la défense de nos libertés au quotidien, souvent avec les plus grands risques pour vous-même. Nous vous remercions de votre service. Je me réjouis de travailler avec vous tous. J'ai hâte de commencer. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci, Monsieur le Secrétaire général. Nous allons commencer par le BBC. Jonathan Beale, BBC, Monsieur le Secrétaire général, toutes nos félicitations. Je souhaiterais vous poser deux questions. Le dernier secrétaire général a dit clairement qu'il soutenait l'Ukraine, notamment sa demande d'avoir recours à des armes de longue portée, telles que Storm Shadow, pour pouvoir atteindre des cibles militaires en Russie. Quelle est votre position? Êtes-vous en faveur de cette demande formulée par l'Ukraine aux pays occidentaux de lever ces limites? Deuxième question. Vous-même, vous avez parlé du besoin de dépenses militaires supplémentaires. Est-ce que vous pensez, en tant que Premier ministre néerlandais, avez-vous pu donner le bon exemple? Vous avez mis 10 années à atteindre les 2%. Les Alliés avaient agréé cet objectif de 2%. Est-ce que vous avez réussi à mettre en pratique ces principes? Non. Et je me réjouis de voir les Pays-Bas atteindre ces 2%. Donc, le 24 février 2022, pour nous, était vraiment manière d'éveiller conscience. Nous avons su qu'il fallait, il aurait fallu faire cela plus tôt. Mais n'oubliez pas que l'Ukraine se combat, c'est une guerre d'autodéfense. Et c'est pour cette raison que l'Ukraine a le droit de se défendre. Et nous savons que selon le droit international, ce droit ne s'arrête pas aux frontières. Cela veut dire que soutenir ce droit de l'Ukraine à se défendre veut dire que ce pays peut également frapper des cibles légitimes sur le territoire ennemi. Et au bout du compte, c'est à chaque allié de déterminer le soutien qui sera apporté à l'Ukraine. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux alliés individuels de le faire dans leur rapport avec l'Ukraine. Et soyons clairs, une seule arme ne permettra pas la victoire en Ukraine. Mais bien évidemment, c'est une décision importante. Alors, je peux comprendre la demande de l'Ukraine et je me réfère à ce qu'avait dit Jens Stoltenberg à ce sujet, mais bien évidemment, c'est aux alliés de prendre cette décision. Et les alliés aujourd'hui, par exemple, les États-Unis ont déjà consacré des dizaines de millions de dollars pour permettre à l'Ukraine de se défendre. et l'Ukraine sans doute n'existerait plus aujourd'hui sans le soutien américain. NPA Deutsche Welle, Terry, vous avez la parole. Merci beaucoup, Terry Schultz. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue au siège. Vous êtes le quatrième secrétaire général que j'ai eu le privilège d'interviewer. Et chaque fois, ces secrétaires généraux ont parlé de la coopération avec l'Union européenne. Vous avez peut-être une plus forte expérience dans la matière. Comment allez-vous vous y prendre par rapport à la mobilité militaire, par exemple, pour vos objectifs capacitaires? Vous avez la plus grande transformation jamais depuis des décennies. Comment allez-vous réussir à mettre en place le nombre supplémentaire de soldats promis? Comment allez-vous faire par rapport à cette capacité? L'OTAN dit depuis des années qu'il faut augmenter les capacités de production, mais vous êtes loin de l'objectif, les stocks sont bas. Comment allez-vous faire pour permettre à l'OTAN de faire ce qu'elle a promis? Très bonne question. Je vais commencer peut-être par la question OTAN-UE. Bien évidemment, je suis bonne amie avec les hauts dirigeants de l'Union européenne. Il me tarde de pouvoir travailler avec eux, avec le Conseil, la Commission et bien évidemment avec tous les autres acteurs majeurs. Et je dois ajouter qu'il y a une reconnaissance claire à la fois de la part de l'OTAN, l'Union européenne, de cette défense européenne plus capable, bien évidemment, qui sera un complément à interopérable avec la défense de l'OTAN. Mais personne ne souhaite de structure en parallèle, de doublons par rapport à ce que fait déjà l'OTAN. Donc, nous sommes d'accord par rapport à ces questions, mais maintenant à nous de voir comment mettre en œuvre toutes ces politiques. Il me tarde vraiment de travailler avec eux, toute coordination, car nous avons le même objectif de protéger cette région du monde. S'agissant de l'industrie, pour moi c'est une vraie priorité, parce que sans une industrie transatlantique forte, il ne peut pas y avoir de défense, c'est clair. Depuis quelques années, nous avons pu constater une augmentation marquée de la production au sein de l'Alliance, davantage d'obus, de navires, d'armes depuis des décennies. Mais nous devons aller plus loin, plus fort, c'est pour notre propre dissuasion de défense. Et je pense que l'OTAN est dotée des outils nécessaires afin d'augmenter la production. Nous avons l'agrégation, la demande des alliés, par exemple, et cette question de capacité. Et lors du sommet de Washington, comme vous le savez, avec notre engagement en matière de l'industrie, et je vais m'y atteler pendant les mois à venir. C'est une priorité claire et je vais travailler avec mon équipe et mes alliés afin de faire en sorte que nous ayons cette montée en puissance à la production et d'essayer de lever les obstacles existants pour les entreprises. Peut-être une question de contrat plus long terme. J'en ai entendu parler, vous sans doute également, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prétexte pour qui que ce soit de ne pas pouvoir augmenter cette production de la défense.
Over there at the end. Reuters, une question. Andrew Gray de Reuters, une question simple. Est-ce que l'Ukraine emporte cette guerre contre l'invasion russe et que pouvez-vous faire, ainsi que les alliés de l'OTAN, pour changer la réalité sur le champ de bataille? Réponse. Clairement, l'Ukraine mène une guerre de légitime défense et je suis très impressionnée par ce qui est fait par les Ukrainiens. Ils ont montré leur courage, leur créativité. Ils arrivent à repousser les forces russes. Si vous me demandez quelle est la situation maintenant sur le champ de bataille, clairement, elle n'est pas facile. Il y a l'armée ukrainienne qui réussit à tenir de nombreuses positions, mais les forces russes continuent à obtenir certains gains territoriaux. Mais cela se fait à un très grand coût. Si vous regardez les estimations des pertes russes, c'est environ 1 million de personnes qui sont blessées ou tuées par jour, avec donc 500 000 au total qui auraient déjà été blessées ou tuées. Et du fait de la poursuite de cette attaque par la Russie, les alliés continuent à fournir des milliards en aide à l'Ukraine. Je serai à Ramstein d'ici quelques semaines pour parler des besoins les plus urgents sur le champ de bataille de l'Ukraine et coordonner l'aide. ZDF, question.
Ukraine. Maar die steun aan Oekraïne ligt heel moeilijk, zowel in Amerika, toenemend moeilijker in Amerika en ook bij de Europese bondgenoten. Wat denkt u, wat kunt u daaraan doen en hoe lang is dit nog vol te houden? En de tweede vraag is, denkt u dat u tijdens uw ambtstijd als generaalsecretaris van de NATO, dat u nog gaat meemaken dat Oekraïne werkelijk lid wordt van de NATO?
De first question.
Alors. Votre première question concerne la poursuite du soutien à l'Ukraine par les Européens et les États-Unis. Je suis très optimiste. En effet, tous ceux avec lesquels je parle aux États-Unis, les républicains comme les démocrates, mais aussi les Européens, comprennent que si la Russie l'emporte en Ukraine, si Poutine obtient ce qu'il veut, alors cela aura pour conséquence une situation sécuritaire pour nous qui sera beaucoup plus difficile. Ça serait une augmentation d'un quart de son territoire et de sa population. Nous défendons aussi nos valeurs en aidant l'Ukraine à se défendre. J'ai travaillé avec Donald Trump pendant 4 ans. Et j'ai eu des contacts avec Kamala Harris. Je respecte ces deux candidats et je suis sûre qu'ils comprennent ce qui est nécessaire. C'est grâce au président Trump que nous avons réussi à augmenter nos dépenses de défense depuis 2018. À l'OTAN. Et aussi, ces déclarations sur la Chine ont été entendues à l'OTAN. Kamala Harris, pour sa part, a fait ses preuves en tant que vice-présidente et pour la défense des valeurs. Donc, aux États-Unis, il faudra bien sûr qu'il y ait cette volonté de rester unis au sein de l'Alliance, mais nos valeurs sont en jeu. Et puis, vous aviez une autre question. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, le texte du sommet de Washington est clair sur l'Ukraine. La place de l'Ukraine est au sein de l'OTAN, mais pour le moment, la priorité, c'est la guerre où l'Ukraine doit l'emporter en tant que pays souverain et démocratique. Je ne vais pas discuter maintenant des différents chemins qui peuvent mener à l'adhésion. Il y a beaucoup de possibilités et tout dépendra de l'évolution de la situation.
Ukraine News Agency, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le président russe Poutine a récemment présenté sa nouvelle doctrine nucléaire et a augmenté le seuil pour le recours aux armes nucléaires contre des États non nucléaires. Clairement, cela représente une menace pour l'Ukraine et pour les pays occidentaux qui la soutiennent. Ma question est la suivante. Cela aurait-il des conséquences pour le soutien qu'apporte l'OTAN à l'Ukraine? Et une deuxième question. À votre avis, serait-il nécessaire d'ajuster la dissuasion nucléaire de l'OTAN? Merci beaucoup. Bien évidemment, nous entendons régulièrement des menaces émanant du Kremlin, Bien évidemment, Poutine tient ses propos qui sont de ce type, mais nous ne voyons pas de menace imminente de recours à l'arme nucléaire. Et c'est tout ce que je dirais à ce sujet pour l'instant. Nous allons le laisser parler de son arsenal nucléaire. Il voudrait également que l'on en discute et, à mon avis, nous ne devrions pas le faire. Nous devrions reconnaître que, clairement, il n'y a pas de menace imminente de recours à l'arme nucléaire. Et de manière générale, mais pas uniquement dans le domaine nucléaire, mais de manière plus générale, si Poutine profère ses menaces, et ce serait la première fois qu'un pays obtient quelque chose uniquement parce qu'il a recours à la force. NOS ? Merci beaucoup. Félicitations. On vient d'annoncer une nouvelle alerte aérienne à Kiev. Et le Kremlin a dit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de changement de politique attendu de la part du nouveau secrétaire général, vous-même. Et ma question serait de savoir comment vous pouvez surprendre le Kremlin. Tout d'abord, je dirais qu'en fait, le Kremlin, à ce sujet, a d'excellentes sources. Et je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même que lors de ce communiqué de presse. Car, en fait, j'admire Jens Stoltenberg, ses priorités, bien évidemment, sur le long terme. Vous verrez des différences, des différences de style, c'est inévitable. Nous ne sommes pas la même personne. Mais au Conseil, M. Stoltenberg a pris les décisions nécessaires pour préparer la voie au sommet. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous pouvons contrer toute menace contre le territoire de l'OTAN. Et dans l'avenir, nous serons à même de continuer à le faire. Mais bien évidemment, vous verrez des changements en fonction de la situation qui évoluera également. Mais nous avons cette question. C'est une question très chère à Jens Stoltenberg. C'est la production de l'industrie de la défense. Comment encourager les grands acteurs, les grosses entreprises dans ce secteur, de pouvoir travailler pendant la semaine, même le week-end, si nécessaire. Donc, beaucoup de choses à encore accomplir. Merci. Interfax Ukraine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Farah. Interfax Ukraine. Monsieur le secrétaire général, quelle sera votre approche par rapport à la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Allez-vous chercher à créer un consensus ou est-ce que vous préférez attendre? Thank you well. Le sommet de Washington, clairement, a représenté la prochaine étape. Nous pouvons le voir dans la conclusion du sommet et je m'en réjouis. Bien évidemment, il convient maintenant de mettre l'accent sur l'effort de guerre. Et en fait, c'est un paradoxe. Plus nous aidons l'Ukraine maintenant, plus nous serons à même d'arriver à la fin de cette guerre. Nous voulons que l'Ukraine l'emporte. Et au bout du compte, lorsque l'on parle de paix, c'est au gouvernement de l'Ukraine de décider à quel stade il faudra parler de paix. Avoir, c'est pour parler de paix. Mais nous devons bien évidemment examiner toutes ces possibilités sur les mois à venir, les années à venir. Et également la question d'adhésion éventuelle de l'Ukraine. Mais à ce stade, il est très difficile de prévoir quelles seront les conséquences.
NHK, question. Merci. En ce qui concerne la coopération avec les pays de l'IP4, pourriez-vous nous dire comment vous avez l'intention d'approfondir les liens avec ces pays de l'IP4 et dans quel domaine? Réponse. Cette coopération est crucial. Et j'ai été très heureux de voir au dernier sommet que les premiers ministres de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon aient participé. Ces crucial. En effet, la Russie reçoit un soutien de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Chine. Et donc, il y a beaucoup de sujets en jeu dans l'Indo-Pacifique et nous souhaitons resserrer les liens avec nos partenaires d'Indo-Pacifique. Il faut étoffer cette coopération. Cela va pouvoir se faire de différentes façons. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Nous allons en discuter avec les ministres de la Défense dans ces quatre pays, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a une volonté de travailler ensemble face aux défis que nous partageons. Donc, nous allons commencer par en parler avec eux, voir comment nous pouvons avancer sur cette coopération. TRT, une question. Monsieur le secrétaire général, bienvenue à Bruxelles. Vous vous êtes rendu en Turquie en avril dernier. Vous avez rencontré le président Erdogan. Comme vous le savez, la Turquie a des attentes en matière de lutte contre le terrorisme et la levée d'embargo entre alliés. Pendant le mandat de Jens Stoltenberg, un coordonnateur spécial de contre-terrorisme a été mis en place à l'OTAN. En tant que secrétaire général, quelle sera votre approche sur ce sujet? Réponse, c'est un sujet très important. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président Erdogan et pendant toutes les années où j'étais Premier ministre, lui-même était d'abord Premier ministre et maintenant président, je peux dire que nous sommes amis. Nous sommes sur la même longueur d'onde. La lutte contre le terrorisme, c'est une tâche qui doit se faire dans le contexte de l'OTAN. Il pousse dans cette voie et j'y suis tout à fait ouvert. Nous devons effectivement travailler ensemble. Nous aurons ces discussions et je pense qu'il est important au sein de l'OTAN qu'il n'y ait pas de limite quant aux livraisons, je sais qu'il y a des sensibilités, il faut y travailler.
Bloomberg, au fond de la salle. Merci beaucoup, bienvenue. Félicitations, monsieur le secrétaire général, vous avez évoqué la Chine. Je souhaiterais vous demander s'il y a une ligne rouge par rapport à son soutien à la Russie qui pourrait déclencher une réponse forte de la part de l'OTAN. En ce moment, le problème que nous avons par rapport à la Chine, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est que la Chine est un facilitateur de cette guerre brutale, l'agression de la Russie. Lorsque j'étais Premier ministre des Pays-Bas, j'y étais au mois de mars et j'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi, puisqu'ils disent que nous sommes des amis proches en Europe, pourquoi la Chine soutiendrait la Russie par le biais de ses matériaux microélectroniques, les biens à double usage de manière générale. Il faudrait que cela s'arrête et cela a un impact sur leur position dans le monde. Mais clairement, c'est une question à laquelle nous devons faire face. C'est pour cette raison que nous devons travailler sur ce rapprochement avec nos amis dans l'Indo-Pacifique. Et la Russie n'obtient pas tout cela gratuitement. Les munitions ne viennent pas de la Corée du Nord gratuitement. Les missiles iraniens ne viennent pas gratuitement. Ou les autres biens à double usage tout ce contournement de sanctions là, par la Chine gratuitement. La Russie leur est redevable et clairement la Russie les aide à développer leurs propres programmes, y compris des programmes balistiques ou nucléaires, et ainsi viole des résolutions de l'ONU. Donc c'est un défi majeur auquel nous devons faire face. Kurdistan 24. Merci beaucoup. Kurdistan 24, c'est un plaisir de vous voir. Depuis une décennie, vous avez eu de très bons rapports avec les autorités kurdes, notamment dans la région du Kurdistan irakien. Mais nous avons cette question de Daesh. Est-ce que vous pouvez promettre que vous allez continuer à fournir un soutien de l'entraînement aux Kurdes face à Daesh? Oui, de manière générale, si je puis le dire ainsi, nous travaillons très étroitement avec la région kurde, mais également avec l'Irak de manière générale. Nous travaillons avec nos partenaires, comme vous le savez, pour renforcer les forces de sécurité qui doivent lutter contre le terrorisme, bien évidemment dans le plein respect de l'indépendance et souveraineté de l'Irak. Je sais que mon prédécesseur, Jens Stoltenberg, a rencontré le premier ministre irakien il y a quelques jours à New York, me semble-t-il, et nous allons rester en contact avec le gouvernement. Et bien évidemment, en même temps, nous allons mettre l'accent sur la sécurité de nos soldats sur place et faire tout le nécessaire. L'AFP, Max, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Max Delaney, AFP. J'ai deux questions. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures? Deuxième question par rapport à Trump. Vous avez dit que vous n'étiez pas préoccupé, mais c'est un homme qui a encouragé la Russie à faire ce qu'elle voulait par rapport aux pays qui ne payaient pas assez d'argent, qui ne consacraient pas suffisamment de fonds à la défense de l'Alliance. En fait, j'ai travaillé avec Donald Trump. Et je pense que nous devons reconnaître ces deux questions que j'ai déjà évoquées par rapport aux dépenses en matière de défense. Lorsque Jens Stoltenberg a commencé, il y en avait trois, désormais 23 pays qui ont atteint les 2%. Et les dépenses globales à l'OTAN se retrouvent à au moins 2% ou plus. Et je dirais que grâce à ces efforts de M. Stoltenberg, nous avons atteint ces résultats. Et j'ai également parlé de la Chine. Quand M. Stoltenberg a parlé de la Chine au début, tout le monde n'était pas au courant de la nature de cette menace et le rôle en Ukraine. Quand M. Trump a parlé de la Chine, donc, je ne vais pas commenter tout ce que dit M. Trump ou Mme Harris, mais de manière générale, mon instinct qui est fondé sur toutes les discussions que j'ai eues, y compris avec les deux candidats, était qu'ils comprennent qu'au bout du compte, le lien transatlantique est essentiel, pas uniquement pour l'Europe, ce n'est pas uniquement pour des raisons historiques de ne pas répéter la même erreur que la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est essentiel à leur défense, à leur propre sécurité, car si la Russie devait gagner davantage d'influence dans cette région, cela aurait des conséquences directes pour les États-Unis, y compris si Poutine devait obtenir ce qu'il voulait en Ukraine. Donc, je ne vais pas réagir par rapport à chaque phrase, chaque syllabe prononcée par la classe politique américaine.
Une dernière question de Hamza, et nous allons conclure. Bonjour, monsieur le secrétaire général, agence italienne. Alors, première question. Dans vos fonctions précédentes, vous avez voulu vous assurer que l'Italie et d'autres pays dépensaient moins
pour ne pas être dans le rouge. Mais maintenant, vous allez devoir pousser l'Italie et d'autres pays à dépenser plus tout en ayant un équilibre budgétaire. Mais alors, sachant que les budgets dans beaucoup de pays sont déjà très surchargés, et puis qu'est-ce que l'OTAN peut faire pour être plus présente dans le voisinage sud ? Réponse. Eh bien, Jens Stoltenberg a nommé un représentant spécial pour le voisinage sud, et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour nous de renforcer ce travail. Donc ça, c'était pour votre deuxième question. Sur votre première question, effectivement, il y a beaucoup de gouvernements qui sont face à ces dilemmes, mais c'est la responsabilité des responsables politiques, Giorgia Meloni, mon successeur aux Pays-Bas, les dirigeants dans tous nos pays doivent gérer leur budget, être responsables pour les générations à venir, mais s'assurer aussi que les priorités peuvent être financées. Mais je ne vais pas rentrer dans ce qui est fait par chaque pays. À l'Union européenne, il y avait des recommandations qui sont maintenant plus centrales pour la prise de décision. Et je pense qu'il est bon d'avoir des recommandations qui soient spécifiques par pays. Mon pays, notamment, maintenant, doit se battre pour obtenir de l'argent du fonds de la COVID pour que les 5 milliards en question soient libérés, mais en échange de plus de réformes, de plus de résilience de l'économie, l'Union européenne est prête à aider en apportant, par exemple, des fonds de ce fonds de remise en état. Mais ici, à l'OTAN, nous devons défendre l'Alliance. Nous devons nous assurer que nos pays, nos populations, nos valeurs sont défendues. Et c'est bien le cas. L'OTAN est prête à réagir face à toute attaque. Et il faut que cela continue à être le cas. Est-ce que vous allez continuer à venir au travail en vélo ? Réponse, le transport, c'est aussi une question de sécurité. Question hors micro. Réponse, je vais passer du temps à La Haye, mais l'essentiel de mon temps à Bruxelles. C'est un pays fantastique. Merci beaucoup. Et je me réjouis de vous revoir prochainement.